définition, lesquelles autres seraient absolument contradictoires l'une et l'autre. Alors là, on se trouve dans une situation circulaire qui est difficile à résoudre. Par exemple, l'équilibre serait la conséquence de la formule action égale réaction. Mais dans un autre contexte, action égale réaction, c'est zéro. A égale A, il n'y a rien, c'est zéro. Alors, l'équilibre, conséquence de la formule action et réaction, c'est absolument fondamental parce que c'est toute la mécanique céleste qui a été décrite grâce à cette idée tautologique. Si on n'est plus terre à terre, eh bien, si vous êtes assis, on pourra dire que je pourrais faire une théorie comme quoi c'est un équilibre dû à l'action et à la réaction, l'action de la pesanteur de votre postérieur sur le siège, la réaction des pieds de la du pied du siège, etc. Donc, ça pourrait être une explication pourquoi vous êtes assis, mais c'est une explication de convenance pour une certaine partie de la science, c'est une explication qui ne convient absolument pas et qui est totalement inutile et ridicule pour une autre... un autre domaine scientifique, tel que par exemple la psychologie ou la sociologie, ou le fait que vous préférez être assis que debout, et moi aussi, parce que ça se fait comme ça. Alors, ce problème tautologique se retrouve dans la psychanalyse absolument tous les jours. La répétition, qui est quelque chose d'absolument fondamental, ce qu'on essaye toujours de découvrir, pourquoi le patient répète toujours les mêmes choses. La répétition est une manière d'éviter l'angoisse de castration. Voilà une formulation précise pour certains psychanalystes. On peut en formuler une autre, mais celle-là, si on la veut, théoriquement, la répétition est là. Elle évite l'angoisse de castration par des procédés archaïques. Des procédés archaïques de différents types ou par des défenses de différents types. Et on la retrouve au niveau du transfert. À supposer que cette répétition disparaisse, on se trouvera dans la situation de non-répétition. Eh bien, dans la situation de non-répétition, qu'est-ce qu'on dira en psychanalyse ? La non-répétition est due à l'angoisse de castration. Il est évident que si le patient ne répète pas, c'est pour échapper à la répétition qu'il se défend et que le fin fond de cette théorie, c'est l'angoisse de castration. Alors, on se trouve dans une théorie tautologique ou dans une impasse. Quoi que fasse le patient, ça reviendra toujours à l'angoisse de castration. Et si jamais le patient dit qu'il n'a pas d'angoisse, c'est la preuve par 3 que l'angoisse de castration est sous-jacente. Prenons la même chose avec quelque chose de encore plus banal, c'est le rêve. Le rêve, c'est la voie royale pour découvrir un inconscient théorique, finalement. Nous sommes tous d'accord avec ça. On a beau faire évoluer le rêve, il reste toujours la voie royale pour découvrir un inconscient théorique. Supposons qu'on réussisse à découvrir quel est le désir du rêve et quel est l'accomplissement du rêve, et que le patient cesse de rêver, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ne pas rêver, mais c'est passionnant. C'est passionnant, c'est vraiment la voie royale pour découvrir l'inconscient et pour découvrir la psychanalyse. S'il ne rêve pas, c'est qu'il se cache de rêver pour ne pas nous montrer justement cette voie royale. Elle est encore plus nette dans le cas où il ne rêve pas. Conclusion, avec toute la Traumdeutung, avec toutes les interprétations, qu'on rêve agréablement, qu'on rêve désagréablement, qu'on ne rêve pas, on est toujours dans la même situation au point de vue théorique, dans cette situation tautologique, ou bien soit de voie royale, soit de complexe de castration, soit de ce qu'on veut, la théorie ne change pas, quel que soit le résultat de nos investigations psychanalytiques. Alors, à ce moment-là, construire et interpréter dans ce contexte-là n'ont plus de sens, on piétine, la psychanalyse est indéfinie, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est-à-dire que pour qui prône une théorie scientifique, par exemple le déterminisme absolu, quoi qu'on fasse, on ne peut pas y échapper. Alors, pour qui prône l'angoisse de castration, quoi qu'on fasse, on ne peut pas y échapper. C'est le fond de l'Édipe. D'où, qu'est-ce qui se passe ? On est plein d'inquiétudes. On l'a vu l'autre jour à Mora. On le connaît tous. Qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait avec cette analyse? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je m'arrête? On est plein d'inquiétudes légitimes. Et ces inquiétudes vont mener le psychanalyste à certaines aberrations. Par exemple, les aberrations bien connues. Comment me débarrasser de mon inquiétude? Mais c'est une réaction thérapeutique négative. Le patient est en train de faire une réaction thérapeutique négative, donc qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Ou bien, c'est l'instinct de mort. L'instinct de mort est tellement développé chez ce patient, il se détruit, donc mon inquiétude est légitime. Pourquoi? Parce que c'est la faute du patient. Parce que c'est lui. S'il fait une réaction thérapeutique, c'est pas de ma faute. Si son instinct de mort est bien développé, c'est pas de ma faute non plus. Mais alors cette aberration, la faute du patient, ça montre de nouveau la voie. C'est-à-dire la voie qui n'est pas la voie scientifique. Parce que la faute ou l'inquiétude sont d'un autre registre que du registre scientifique. C'est d'un registre existentiel. Ou d'un registre philosophique, ou d'un registre extra-scientifique. Alors on peut dire que la culpabilité, la non-culpabilité, ou même l'angoisse et la non-angoisse, peuvent très bien se référer, dans la mesure où on aimerait bien échapper à la tautologie scientifique, à des catégories beaucoup plus générales, au bien et au mal. Et à ce moment-là, il faut savoir, nous, pour se débarrasser de notre inquiétude, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Faut-il continuer? Faut-il s'arrêter? Faut-il faire ça, interpréter, etc. Mais le bien et mal, et le mal, ce ne sont plus à ce moment-là des catégories scientifiques, ce sont des causes finales qui sont au-delà du scientifique. Les causes finales, les causes premières, ça dépend de quelqu'un d'autre, ça dépend des philosophes, ça dépend des mystiques, ça dépend des religieux. Et ça dépend aussi des psychanalystes, parce que ça implique un choix chez le psychanalyste dont on ne peut pas se passer. On est obligé de choisir, nous, et dans notre solitude, parce qu'on n'est pas dans une situation scientifique où il y a une troisième personne qui dit ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui sera le meilleur ou qu'est-ce qui sera moins bon, puisque scientifiquement, interpréter, construire, nous mène toujours sur cette même impasse, angoisse de castration ou instinct, ou etc. Alors là, on aperçoit un changement radical. C'est-à-dire qu'on passe du domaine de la conviction scientifique au domaine de la croyance. Et ce domaine de la croyance implique aussi, à mon sens, le domaine de l'espoir, c'est-à-dire que ça implique quelque chose d'irrationnel, quelque chose d'imprévisible, quelque chose d'inintelligible, qui peut justement déboucher sur l'espoir plutôt que sur sur le catastrophisme, dire l'analyse est interminable, c'est fichu, etc. Espoir en quoi? C'est de nouveau difficile à dire. Là, je trouve un mot pour pouvoir continuer. Par exemple, espoir en un ensemble. Alors, je le retrouve chez nos deux Lascar. Théodore Flournoy, quand il emploie le parallélisme psychophysique, par exemple, la honte est quelque chose qui n'est pas mesurable. On peut dire à cette personne, quelqu'un dit « j'ai honte », le professeur de psychophysiologie se trouve perdu devant la honte. S'il veut être scientifique, il doit employer des outils physiques ou physiologiques pour s'en tirer. Alors par exemple, il pourra dire « le degré de rougeur de la peau de cette dame atteint tel degré, atteint tel rayon, ou je sais pas, telle valeur, ou bien le degré de chaleur de la peau de ce monsieur qui est honteux atteint telle température. » Voilà quelque chose de parfaitement scientifique qui est équivalent à cette honte indescriptible scientifiquement. Mais finalement, ça ne mène à rien du tout, parce qu'on a un parallélisme rigoureux, on a d'une part une honte et d'une part une rougeur. On n'en sait rien de plus. Mais on est resté dans le domaine du déterminisme. Alors, où est l'irrationnel? Où est l'espoir? Où est la croyance? Chez Flournoy, il l'a dit, c'est l'espoir de découvrir l'éternel. Donc, à force de débarrasser le surnaturel de ses scories, on trouvera le vrai surnaturel, le vrai éternel, le vrai Dieu qui se trouve chez Helen Smith. Chez Freud, si c'est clivé, si c'est refoulé, si c'est non clivé, si c'est non refoulé, on se retrouve dans la même chose. Si on prend d'autres théories, par exemple la théorie du contenant du contenu, je suis le contenant, tu es le contenu, tu es le contenant, je suis le contenu, tu es le contenant et le contenu, on arrive à des situations indéfinies, parce que s'il y a le contenant et le contenu, l'analyse n'existe plus. Il faut que l'analyse soit contenant, soit contenu pour faire quelque chose. Donc, il n'est pas possible de sortir de cette impasse scientifique sans trouver quelque chose, un ensemble qui soit un ensemble en dehors de la science, qui soit transcendant. Alors là, moi je le vois dans la formule de Freud, « Wo es war, soll ich werden ?» Le « soll ich werden », ça veut bien dire que le « ich », on ne le trouvera jamais. Parce que c'est dans l'avenir, le « s », il a toujours été là. Et si jamais on trouvait le « ich », ça serait la négation de quoi ? Ça serait la négation de toute l'analyse. Il n'y aurait plus de « s », il n'y aurait plus de théorie, plus de théorie topique, plus de théorie structurale, il y aurait un « ich » qu'on aurait trouvé. Autrement dit, là, j'y vois un ensemble transcendant, musique d'avenir, qui est l'équivalent à l'éternel chez Flournoy, les deux aboutissements de tout ce travail de démystification. Et il faut reconnaître que le « ich », ça a quelque chose de beaucoup plus anthropomorphique, c'est quand même moi, c'est Freud, « ich », finalement. Alors, pour voir un peu plus près dans ces questions de l'éternel et du « ich », je vais comparer rapidement, j'en ai plus pour très longtemps, les méthodes de Freud et de Flournoy, qui sont étonnamment semblables. Flournoy a quatre principes pour éviter de sortir de la science et pour rester dans son domaine de professeur de psychologie physiologique qui doit débusquer le surnaturel chez Helen Smith. Son premier principe, c'est le principe je vais comparer en même temps avec Freud. Son premier principe, c'est le principe de Hamlet. Ce qui veut dire, c'est Horatio qui dit « Ne vois-tu pas qu'il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que tu ne peux... » Je ne sais plus quelle est la citation exacte, enfin vous la connaissez. Ça veut dire, le principe d'Hamlet, on peut tout faire. Tout est possible, c'est ça. Tout est possible. On voit chez Freud la règle fondamentale, on peut tout dire. Tout est possible, vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez. C'est identique. Flournoy ne précise pas c'est faire ou dire, tout est possible. Freud précise dans la situation éthique, tout est possible, à condition que vous le disiez. Deuxième principe de Flournoy, principe de Laplace, plus les choses sont mystérieuses, plus les choses sont complexes, plus le poids des preuves doit être fort au point de vue scientifique. Chez Freud, plus c'est mystérieux ce qui est dit dans le tout est possible, plus on va éprouver ce qui est dit par les constructions et par les interprétations pour voir ce que ça vaut, pour essayer de comprendre ce que ça signifie. Troisième principe chez Flournoy, je l'ai déjà dit, c'est la confession de ses tendances intimes pour qu'elles ne viennent pas fausser l'expérience. Troisième preuve chez Freud, c'est le transfert. Le contre-transfert provoqué éventuellement par le transfert de l'analysant, exclusion du transfert de l'analyste. Donc, c'est la même chose, prendre connaissance du transfert de l'analyste, prendre connaissance de la passion de l'expérimentateur Flournoy pour les exclure de l'expérience. Quatrième loi ou précepte chez Flournoy, ne pas conclure, ne jamais conclure chaque fois qu'on fait une expérience, quand on a l'impression qu'on a conclu, on va étudier cette conclusion pour voir si continuer indéfiniment à la mettre en question. Exactement la même chose chez Freud, ne concluez pas si vous faites une interprétation qui réussit, que l'angoisse de castration a disparu, si vous faites une construction qui a réussi, que l'amnésie infantile a été comblée. L'analyse est interminable. On retrouve les mêmes absolument données théoriques, les mêmes méthodes de travail, les mêmes barrières pour éviter de dévier de la visée scientifique. Et puis, on voit que Flournoy a dû ajouter quelque chose par la suite, il l'a fait après, c'est-à-dire 2 ans après l'apparition du livre des Indes à la planète Mars. Il faut absolument exclure la transcendance. Alors, enfin, maintenant, je pense que c'est clair, mais enfin, ça a causé beaucoup de problèmes, on ne comprenait pas. Et on ne peut comprendre cette exclusion de la transcendance, et non pas de la religion, justement, dans le fait même que, comme je vous l'ai dit, en excluant la transcendance, Flournoy espère la trouver là où il la cherche, c'est-à-dire chez Helen Smith. C'est pour ça que, pour moi, le terme transcendant me paraît fondamental dans la mesure où il inclut la personne qui est transcendée, contrairement, par exemple, à l'objectif ou à l'objectivation ou au Dieu céleste qui n'inclut pas la personne. Donc, c'est une espèce de barrière supplémentaire qu'il ajoute pour rester dans son domaine. Et on voit que Freud a le même souci pour rester dans le domaine scientifique, mais pas par exclusion du transcendant, mais par forçage du scientifique et par inclusion du transcendant. Alors là, c'est tout à fait étonnant de voir ça chez Freud. Par exemple, l'avenir d'une illusion est tout à fait typique. L'illusion, ça serait la religion. Non seulement la religion est réduite à une illusion, mais l'espoir, ça n'est pas que l'illusion disparaisse, parce que Freud pense que les illusions font partie de nous, c'est de pouvoir la réduire à une explication scientifique. Et en relisant l'avenir de l'illusion, j'ai trouvé une phrase quand même que j'ai prise là parmi tant d'autres, à propos du désir. Et ces désirs, il parle de ces désirs que notre Dieu Logos réalisera par ce que la nature extérieure permettra. Autrement dit, grâce à l'intelligence, les désirs pourront être plus ou moins réalisés de manière scientifique, selon les sciences naturelles et non pas selon les sciences morales. Autre forçage du scientifique, des sciences naturelles, tout à fait typique, dans au-delà du principe de plaisir. Le principe du plaisir, justement, ça mène à quelque chose d'impossible. On ne sait pas ce que c'est que ce plaisir, puisque le désir débouche sur un plaisir impossible. Et c'est là que, devant l'impasse ontologique, Freud va inventer, à regret du reste, on dirait même, l'instinct de mort. Et il montre, il décrit combien l'instinct de mort, non seulement travaille chez le patient, mais aussi travaille chez lui, chez tout être humain. L'instinct de mort, cette espèce de lutte interne qui se traduirait phénoménologiquement par de l'oscillité, mais qui est une destruction sadomasochique interne due à l'instinct de mort. Et c'est étonnant, parce que en posant l'instinct de mort pour essayer de résoudre l'impasse qu'il décrit dans Au-delà du principe du plaisir, on dirait que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il avait quand même tout un idéal, qui était un idéal d'un monde sans hostilité, d'un monde sans mort, d'un monde éternel, d'un monde transcendant, qu'il vient écraser par l'instinct de mort devant les difficultés qu'il a. Donc qu'il vient en forçant le côté scientifique de sciences naturelles. Et puis, dans la fin de sa vie, il y a toute une série d'articles où on voit cette même tendance. Par exemple, il ne parle plus d'interprétation, mais il parle de construction. Il y a les constructions d'analyse qui sont déjà en 1937, je crois, où là, effectivement, il s'agit absolument de reconstruire. C'est une mécanique de la construction comme si l'interprétation déjà laissait une sorte de possibilité de faire entrer du non scientifique, puisque justement la science dialectique ou l'herméneutique, c'est pas très scientifique, ça a un sens, ça a une visée, ça a un but au-delà, un but transcendant. Le clivage du moi, la même chose, il revient, le clivage du moi devient quelque chose de très fondamental tout à la fin, comme s'il y avait une radicalisation de la difficulté par rapport à au refoulement et à l'impasse du refoulement, du retour du refoulé, où il y aurait un clivage, là on aurait quelque chose de parfaitement scientifique, de parfaitement coupé, et un clivage qui ne peut pas se résoudre par un non-clivage, parce qu'on se trouverait devant un moi. Qu'est-ce que c'est qu'un moi? C'est de nouveau quelque chose d'impossible à définir par la psychanalyse. Plus délicate est le problème de l'occultisme. Je vous en ai déjà parlé. Et le problème de l'occultisme, c'est étonnant dans ses conférences sur rêve et occultisme et sur la télépathie, où Freud se demande quand même vraiment s'il y a quelque chose qui le dépasse, il n'arrive pas à comprendre. Il fait exactement la même démarche que Flournoy avec Helen Smith, qu'il fait avec Forsyth, même s'il pense que c'est quand même curieux que Forsyth soit arrivé là et l'ait quitté un quart d'heure avant que son patient vienne lui dire « Je suis Herr von Forsicht », il n'arrive pas à comprendre, il se dit « Ils ont dû se rencontrer, ils ne se sont pas rencontrés », et il fait son fameux acting d'aller fourrer la carte de visite de Forsyth sous le nez de M. von Forsicht, où là, il montre bien la valeur qu'il attribue à l'aspect matériel, à l'aspect scientifique d'une théorie basée sur les sciences naturelles. La démonstration est pénible parce qu'il n'arrive pas au bout. Et il reste un certain doute. Et puis, une autre démonstration que je trouve aussi tout à fait tragique dans ce sens-là, c'est finalement Moïse et le monothéisme. Parce que comme il a réussi à démontrer dans l'avenir d'une illusion, toute l'illusion du christianisme, comme fondamentalement il est juif, il appartient à la judaïté, ça l'a marqué comme tous les juifs, voilà qu'il ne peut pas admettre que les lois, que les lois du judaïsme, qui sont des lois actuelles, qui sont des lois qui dirigent le monde actuellement dans la religion judaïque, puisqu'elles ont été données par Moïse, sont quand même des lois qui viennent de la transcendance ou qui viennent du Seigneur. C'est quelque chose qui lui paraît très difficile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réussit à démystifier même sa propre personnalité, sa propre transcendance, en disant mais non, Moïse, finalement, c'était pas un Moïse qui descendait d'un dieu unique, mais il provenait du panthéon polythéiste païen des Égyptiens, lequel, en dernière analyse, provient de quoi? Du complexe d'Édipe, et de l'enfance, et de la mégalomanie infantile. Alors, à travers cette recherche de absolument forcer dans le naturalisme, on voit que Freud retrouve qui? Finalement, il retrouve Freud lui-même. Il retrouve Freud dans l'enfant, qui, lui, aurait réussi à démystifier le judaïsme, l'occultisme, les interprétations et tout, mais à quel prix? Au prix d'être lui ce transcendant, d'être lui ce ish. Alors, pour terminer, je vais vous proposer quelques petites formulations pour voir comment on pourrait dire l'espoir qui nous fait sortir de la scientificité, tant chez Flournoy que chez Freud, que chez moi. Alors, Freud, lui, c'est Freud qui transcende Freud. C'est le seul espoir qui reste dans tout ce naturalisme à outrance, c'est vous, es war, soll ich werden. On l'a vu, ce ich ne peut être finalement que transcendant, il ne peut survenir que après l'analyse, puisque sinon, c'est la négation même de l'analyse, c'est la négation de toutes les théories analytiques. c'est la négation de toute l'œuvre de Freud, s'il y a un ich. C'est pour ça qu'il doit bien être soll ich werden. Alors, il sera transcendant, on ne sait pas ce que c'est. On ne peut que quoi, l'attendre comme ce qui viendrait, par exemple, remplir le manque du désir. Voilà, il y aurait un ich, ça serait rempli. Chez Théodore Flournoy, ça serait vous, es war, soll Gott werden. Alors, on mettrait Dieu à la place, mais pas n'importe quel Dieu, puisque justement, Théodore Flournoy exècre l'Église. Ce qu'il veut, c'est trouver un Dieu authentique et pas le Dieu de l'Église. Et ce Dieu authentique, de nouveau, où est-ce qu'il le cherche? À l'intérieur du sujet, puisqu'il espère pouvoir le trouver, mais il ne le trouvera jamais, bien sûr. Il le sait, mais il espère pouvoir le trouver chez Helen Smith, et c'est pourquoi son travail, comme chez Freud, peut être indéfini. On peut indéfiniment réduire le surnaturel au naturel, avec l'espoir qu'il y aura une fois quelque chose qui viendra. Chez Melanie Klein, les Kleiniens, là, je m'avance sur un terrain plus compliqué, mais moi je dirais, vous, es war, soll Mutter und Tod werden. C'est la mère et c'est la mort. Et alors là, on est tout à fait dans un côté scientifique. C'est un mythe scientifique qui me paraît, lui, alors peut-être échapper à la transcendance. Parce qu'il s'agit de retrouver la mère telle qu'elle aurait dû être, et il s'agit aussi de s'apercevoir que la mort est au bout du parcours. Mais c'est quand même quelque chose, c'est quand même un mythe intra-analytique qu'on peut discuter, parce que, effectivement, cette mère est quelque chose d'idéal que on ne découvre jamais, tout au moins la mère de nos rêves, reste une mère de nos rêves. Quant à la mort, eh bien la mort, il faudrait pouvoir en discuter après, ce qui n'est pas le cas. Il y a donc encore quelque chose qui reste là du domaine du transcendant. Chez Lacan, direz-vous, es war, soll die Sprache werden. Il faut que ce soit la langue qui vienne dominer. Il y a deux personnes qui parlent, et il y a au-dessus d'eux une langue qui est transcendante et qui peut effectivement pouvoir amener quelque chose qu'on cherche de nouveau dans l'ordre du désir et du manque. Si on avait la langue, eh bien, le manque, on n'aurait plus besoin de parler, on saurait ce qui a été dit. Chez moi, j'ai enlevé le S, j'ai dit vous dit surhoan, lusé var soll ich werden. Alors mon idée, je ne sais pas ce que c'est, alors ça serait la mégalomanie du psychanalyste. Ma transcendance ou ma mégalomanie serait de croire qu'après une analyse, si c'est imaginable, que l'analyse étant quelque chose qui appartient à l'analyste, qu'après une analyse, le sujet pourrait oublier ces histoires de S, Überich, Ich et de théorie psychanalytique et pourrait découvrir son Ich. Comme moi, je ne l'ai pas encore découvert, je suppose que mes analysants ne l'ont pas encore découvert, mais c'est donc mon espoir transcendant ou ma mégalomanie qui me fait trouver cette formule-là. Et pour terminer, je dirais une autre formule qui est d'un ordre tout à fait différent et qui est une formule dont on discutera dans mon séminaire parce que je l'ai prise chez Habermas. Lui, il a la sagesse de ne pas conclure, ou tout au moins, quand il conclut, il dit qu'est-ce que c'est que la visée de la psychanalyse. La visée de la psychanalyse, c'est une anticipation émancipatoire. C'est-à-dire qu'on anticipe quelque chose de l'ordre d'une émancipation, qu'évidemment, là aussi, est de type transcendantal, puisque on ne fait que l'anticiper, et qu'après, eh bien, on verra, où Dieu est grand. Voilà, je vous remercie.
Bien, cher Olivier, nous te remercions vivement de cette riche conférence qui montre entre autres tas de choses que nous avons appris avec les amis dans une originalité tout à fait qui est la tienne, nous a appris quand même, c'est une leçon pour dire comment la psychanalyse est un champ de liberté. Parce qu'aujourd'hui, tu n'étais pas privé de liberté, ce qui me réjouit beaucoup, beaucoup. Tu es sorti du champ proprement dit de la psychanalyse en parlant de la science, de la transcendance, de la philosophie, pas mal de la théologie. Moi, je suis enchanté. Ce qui montre que la psychanalyse, vraiment, a cette possibilité de ne pas rester une science, ni une foi, une croyance dogmatique. Et en effet, tu nous as donné une très grande leçon aujourd'hui, et je te remercie particulièrement. Bien sûr, ceci m'a posé beaucoup de questions que, si on a le temps, j'essaierai de les poser, mais je donnerai la parole d'abord à ceux qui veulent la demander sur tout ce que Olivier nous a dit aujourd'hui. Et l'inhibition. Bon, il y a beaucoup de choses. Édipe oblige, je commencerai par ces deux versions que tu nous as données. Un, Édipe loi universelle, donc scientifique, et en l'opposant à une invention de Freud, Édipe par Freud, pour la besogne de la cause. Bon, là, je pense que quand même, c'est pour moi, c'est une extrapolation de Paul que ne me satisfait pas tout à fait. Parce que, enfin, je pense que Édipe est une loi universelle et, au-delà de scientifique, je dirais biologique. Pourquoi biologique ? Parce que, comme c'est bien connu, tout le monde sort de deux parents de deux sexes et tout le monde passe par la différence de génération. C'est ce qui nous fait le fameux triangle d'Édipe. Donc ça, c'est le côté biologique inévitable. Mais le côté complexe, découvert par Freud, a son universalité au point de vue anthropologique. Parce que c'est le petit homme qui, par sa sexualité infantile, a ses vécus. Vous pouvez me dire, qu'est-ce que tu sais de sien, justement, comme j'en sais rien, je pense que une de particularité du petit homme, c'est la sexualité infantile qui se base sur l'Oedipe et sur le mythe d'Oedipe. Alors maintenant, tu dis Freud l'a inventé qu'avant. Bon, là, c'est ton côté paradoxal. Le complexe d'Oedipe n'existe pas. Bon, là, je pense que c'est tout à fait discuté. D'abord, en prenant les écrits de Freud. Freud écrit à Pliss, c'était en 1997, je me trompe pas, le 17 décembre ou le 15 novembre ou des choses comme ça, peu importe, où il fait la découverte, du complexe d'Oedipe en renonçant à la neurotica, en se référant à un vécu personnel, ce fameux voyage dans le train où il a vu le décolleté de sa maman, et il a dit justement, voilà, Sophocle l'avait raison. Alors il se réfère à Sophocle. Et comme nous le savons, chaque fois qu'il parle du pouvoir, il parle du drame de Sophocle, de la légende d'Édipe. Donc, il y a du fait que le complexe a été découvert par Freud pour les raisons de la cause, je suis tout à fait d'accord, mais ceci n'empêche pas la préexistence du complexe d'Édipe comme complexe universel. C'est ce que Freud dit dans la science de rêve en disant, une dizaine de lignes, qu'est-ce qui nous fait ressentir après tant d'années le même sentiment que du froid ? Ceci veut dire qu'en nous existe quelque chose. Donc, Freud, en tout cas, il n'est pas d'accord avec toi, mais pourquoi pas ? Tu peux dire que tu n'es pas d'accord avec Freud. Mais encore un argument.
Non, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas.
Très bien. Par exemple, on ne peut pas dire la même chose avec, puisque tu as parlé de Galilée. Galilée a montré que la Terre tourne, mais là, ça ne veut pas dire que la Terre ne tourne pas avant la découverte de Galilée. Bon, Autrement dit, bon, le massacre que j'ai beaucoup aimé, bon, ça c'est une, juste pour la discussion, le refus de Freud de Theodor Fournoy de l'affect, ça c'est tout à fait juste. Quant à Freud, c'était au début, en lisant l'esquisse, en effet, il dit Freud textuellement, ou dans une lettre à Fliss, quel horaire, voilà le transfert qui apparaît, qu'est-ce qu'on va faire, comment s'en débarrasser. Bon, ensuite, il s'est habitué, mais ça pose quand même un problème intéressant des limites du transfert. Les limites du transfert, là, en effet, après Freud, ses épigones, certains de ses épigones, ils se sont lancés dans un délire transférentiel, et surtout contre-transférentiel, que je trouve un peu mégalomaniaque, en parlant de leur magie, intuition, talent, etc., et il se croit capable de tout faire, y compris de devenir délirant pour interpréter le déliré. Mais en ce sens, je pense qu'en effet, le problème des limites du transfert, il a très bien souligné en posant cette question. Bon, autrement, moi j'ai beaucoup apprécié une certaine paradoxalité de ton langage. Tu as fait quelques petits raccourcis concernant l'erreur, la répétition, etc., mais ou la transcendance concernant une personne. Là, j'aimerais bien que tu m'expliques davantage en disant que Theodor Fournoy a transcendé Smith. Bon, là, vraiment, moi, la transcendance n'a jamais concerné une personne. C'est une notion, justement, indépendamment de cela. Si tu peux me dire davantage là-dessus. Voilà, je m'arrête. Il y a d'autres choses que je peux revenir.
Oh, je peux répondre en deux mots. Galilée, effectivement, on pourrait admettre que la Terre a toujours tourné. Et là, on est dans un problème de sciences naturelles. Alors, il y a une continuité. Mais je pense que la psychanalyse, c'est justement pas les sciences naturelles. Et je pense que si on établit une continuité, alors on pourrait dire que, comme tu le dis, que tu es du point de vue psychologique, tu es marxiste.
Je dis anthropologie.
Tu es marxiste. Parce que la continuité est essentielle pour voir le matérialisme historique évoluer vers certaines choses, certaines structures sociales qui sont inéluctables. Alors que je pense que quand on se met dans un plan non matérialiste, tel que non science naturelle, mais science morale. Alors que dans la psychanalyse, on ne peut plus se contenter de la continuité. Et on peut, au contraire, il faut admettre que la psychanalyse, non seulement nous a fait découvrir des choses, mais nous permet de les découvrir à chaque fois, à nouveau et après coup. C'est-à-dire que si on part du principe que tout enfant a toujours nécessairement des pulsions édipiennes et une angoisse de castration. Alors, l'angoisse de castration est absolument aspécifique. Elle est marquée, comme tu as dit, dans la biologique. On a une angoisse biologique. On n'a plus du tout une angoisse psychologique irrationnelle. Elle est rationnelle. Elle est explicable. Elle est naturelle, et on se retrouve dans cette situation où il faut absolument fausser la nature à tout prix pour être débarrassé de l'angoisse de castration, et où, si on veut que les gens soient débarrassés, soit il faut analyser tout le monde, soit il faut considérer que les gens qui ne sont pas analysés restent dans cette angoisse naturelle. C'est pour ça que je pense que l'idée d'après-coup, c'est pas une explication rétrospective, c'est une transformation rétrospective du passé. C'est-à-dire qu'on va, à la fois, alors là tu me diras que c'est scandaleux, mais on va à la fois créer cette angoisse de castration comme outil et l'employer pour essayer de résoudre les angoisses de nos patients. C'est-à-dire qu'on va, si tu veux, focaliser leurs angoisses dans la théorie et l'outil psychanalytique qui est l'angoisse de castration. Ce qui fait que la psychanalyse, à mon sens, reste quelque chose de totalement totalement unique et quelque chose qui ne peut pas être, réduit comme à des sciences naturelles, comme Freud a toujours voulu le faire, je le reconnais, et comme Galilée l'a fait avec ses recherches. Mais Freud aurait bien aimé être déterministe, mais on voit tout du long que Freud a toutes les peines à réussir, et il n'y arrive pas. Et alors, pour ce qui est de la transcendance, moi, ce qui me frappe dans la transcendance, on peut l'entendre sous différents aspects, mais je pense que ce qui est de plus frappant, c'est que la transcendance serait quelque chose, pour moi, d'existentiel, c'est-à-dire de propre à l'être humain, mais qui le transcende, c'est-à-dire qui lui échappe complètement. Si tu veux, pour voir la religion, on pourrait dire que dans une visée transcendante, on pourrait dire que Dieu existe, mais qu'il existe à l'image de l'homme. Tandis que dans une visée théologique qui serait dépourvue de ce rapport humain, c'est l'homme qui existe à l'image de Dieu. Alors, il y a bien un rapport entre Dieu et l'homme dans les deux sens. Mais il me semble que quand je parle de transcendance, c'est dans le rapport que Dieu provient de l'homme, même s'il est transcendant, Dieu ou l'éternel ou le Ish, et non pas l'inverse. Bon, alors ça, il faudrait demander aux théologiens ce que c'est que l'inverse. Si Dieu était là avant, bon, alors la Terre a tourné tout le temps avant, d'accord. Alors Galilée, lui, il ne fait que découvrir, que constater que la Terre tourne. Si Dieu a créé le monde, on peut constater qu'il y a un monde et puis que Dieu l'a créé. Tandis qu'avec la transcendance, cet éternel-là, ou ce qu'on cherche en psychanalyse, n'existe pas. Mais il est contenu à l'intérieur de l'homme, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant, c'est que la recherche de Freud vise ce « ich » qui est absolument inconcevable du point de vue psychanalytique, c'est une absurdité, un « ich » qui existerait alors qu'il y avait un « s ». Bon, au « s-bar », il y avait un complexe d'Édipe, il y avait les petits Édipes dont tu as parlé. Il y aura le « ich », hop, complexe d'Édipe, ça existe plus, c'est terminé. Mais c'est quand même ça qu'il cherche, et il le cherche dans le « ich ». Et Théodore Fournois, c'est la même chose. Lui dit, la science, ça ne va pas. Il faut trouver autre chose, quelque chose de transcendant. Donc, du type éternel, religieux. Mais où le chercher? On ne va pas le chercher en dehors, on le cherche ici, dedans. Alors lui, comme observateur, il se trouve qu'il le cherche chez son médium, chez Helen Smith.
Qui était son altérité.
Qui était son altérité. Mais oui, mais qui veut dire que le mystère et le surnaturel vient de l'homme, mais échappe à l'homme, et ne vient pas de l'au-delà, pour être imposé à l'homme. Alors c'est là que je vois aussi toute la différence avec la science naturelle. Le surnaturel, c'est... Oui, c'est le mystère, c'est le mystique, c'est la... C'est d'inconnaissable, c'est-à-dire de non-rationnel, d'irrationnel. Pas d'inconnaissable. Non, la foi, elle est parfaitement. Tu peux dire que tu la ressens. Elle est irrationnelle. Voilà, elle est irrationnelle. Tu peux pas l'expliquer. Tu peux pas l'expliquer scientifiquement. Voilà, oui.
Bon, tu as dit beaucoup de choses. Enfin, je ne veux pas instaurer un dialogue. Mais il y a deux choses. Une chose plutôt, et puis quelque chose juste pour alléger l'atmosphère.
Pourquoi elle est pesante ?
Naturel, la castration que je dis que c'est naturel, je n'ai pas dit ça. Je dis la castration. D'abord, je ne parle pas de la castration. Le complexe d'Édipe est dedans. Alors, moi, je pense que la castration, c'est un privilège anthropologique du petit homme. Et, juste au risque de te réprovoquer, le début de la castration, c'est pas naturel. Mais c'est une histoire perceptive, comme le déni. Parce que le déni avec la castration, on ne peut pas le séparer complètement. Donc, c'est perceptible, c'est une charge de perception qu'ensuite prend la forme d'une représentation, à mon avis. Et puis, bon...
Mais là, tu es biologique.
La perception, c'est pas biologique. C'est, bon, on a beaucoup parlé non. à Mora, c'est la force pulsionnelle que Freud met la pulsion entre le biologique et l'organique. Moi, je suis un tout petit peu...
Non, mais alors, ce que je veux dire, deux mots, c'est que pour moi, la castration, c'est le privilège des petits chats. Dans l'Édipe, la castration, c'est pas ça. C'est l'angoisse de castration. L'angoisse, c'est tout autre chose. Mais ça n'a rien à voir avec la castration.
Mais il va de soi qu'on parle de l'angoisse.
Ah non, parce que l'angoisse, ça n'est plus biologique. C'est l'angoisse d'un mythe, de quelque chose.
Mais le début de celui qui provoque l'angoisse de castration, c'est perceptif.
La perception
de la différence de sexe. Et le déni de la perception.
Non. Oui, c'est la théorie de Freud. C'est pas un.
Je n'ai pas obligé d'être d'accord. C'est la théorie de Freud.
Oui.
La perception de la différence de sexe induit un angoisse.
C'est comme pour le déni, oui, le déni de la perception de l'absence de pénis chez la mère.
Mais pour moi, si tu veux, c'est de Freud psychanalyste. C'est pas de l'homme qui a découvert ce que l'humanité ignorait. C'est ça.
Bien, ceci étant, qui demande la parole?
Ben, Lisa l'a déjà demandé, elle l'a prise.
Qui veut prendre des...